Bonjour, merci d'être là. Marc Hervieux, diplômé du Conservatoire de musique de Montréal, de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, ainsi que du Advanced Role Preparation Studio du Florida Grand Opera. D'ailleurs, vous êtes encore un peu bronzé. Il est récipiendaire de plusieurs prix et bourses, dont la bourse de la Fondation Charles-Émile Gadebois, le prix Diana Saviero de l'Opéra de Montréal, la bourse Gauthier-Létourneau, ainsi que la bourse de la Fondation Jacqueline Desmarais, qu'il a remportée 3 années consécutives. Marc Hervieux a chanté tous les grands rôles de ténor du répertoire italien et français, Rodolfo dans Bohème, Pinkerton dans Madame à Butterfly, le Duc de Mantoue dans Rigoletto, Mario dans Tosca, et j'en passe des Don José dans Carmen, et des Roméo dans Roméo et Juliette. Son dernier album, Après nous, est son premier consacré à la chanson populaire. Il réalise un vieux rêve en prêtant sa voix à un répertoire composé à la fois de classiques incontournables, d'Aznavour, Luc Plamondon, Jean-Jacques Goldman et de chansons originales qui ont été créées pour lui. Il est ici aujourd'hui en pause de sa tournée, tournée qui porte le nom « Après nous ». Et il a accepté de venir nous parler de son amour des livres. Merci encore.
Quel plaisir!
En premier lieu, essayons de camper votre bibliothèque et vos habitudes de lecture. Alors, vous avez apporté plusieurs de vos ouvrages, donc on peut voir qu'ils sont bien lus. Est-ce que vous avez un peu le fétichisme du livre ou est-ce que vous les raturez, vous les cornez, vous les annotez?
C'est drôle parce qu'en vieillissant, je me suis rendu compte que les livres que je lisais, adolescents et jeunes adultes, sont vraiment bien, bien maganés plus. Et en vieillissant, ceux que j'ai depuis pas longtemps, ils sont plus propres. C'est vrai pareil comme celui du général Dallaire. Tandis que je dis, coudonc, ils vont penser que je l'ai pas lu. Donc, ben voilà.
Et est-ce que vous, manifestement, puisque vous les avez ici, vous y êtes attaché, vous les prêtez pas, vous les donnez pas, vous les revendez pas?
Non, je les revends pas, je les prête beaucoup. C'est drôle parce que les prêter, souvent, on le sait tous, souvent, il reviendra pas. Mais en même temps, c'est ça la belle vie d'un livre, moi, je trouve. Puis je me dis tout le temps, j'espère que celui à qui ou celle à qui je l'ai prêté, va leur prêter à quelqu'un d'autre, puis que cette personne-là non plus il remettra pas, puis qu'il va continuer sa vie comme ça. Tu sais, je vous disais tantôt que j'ai commencé à peine là à avoir les livres sur le iPad, mais je suis pas encore à l'aise avec ça. J'aime ça là l'avoir vraiment dans mes mains, dans ma poche, dans mon manteau, puis le pouvoir le sortir, puis y toucher.
Vous lisez beaucoup en voyage, c'est sûr, mais ouais. Est-ce que à la maison, vous avez un endroit de prédilection pour lire?
L'été, plus. L'hiver, ça va être vraiment un peu partout, surtout le soir, quand tout s'arrête puis que je peux lire au lit. Mais l'été, j'aime beaucoup lire dehors. Je vis à la campagne, puis je sors sur la véranda, puis là, c'est la place où j'aime le plus lire.
Avez-vous des beaux livres, des livres de table à café, d'artistes?
Oui. Et je pense que mon livre, beau livre que préféré, c'est le livre du documentaire de Jean Lemire, qui, pour moi, avec des photos extraordinaires. Le petit gars de l'Est, pour moi, élevé avec mon père qui mettait à peu près au même niveau Dieu et Guy Lafleur et Maurice. Quand j'ai vu dans le livre de Jean Lemire la photo, je sais pas s'il y en a qui ont vu ce livre-là, il y a une photo où il y a le Sedna qui est accosté à un immense bloc de glace et les gars sont sur la banquise avec le hockey puis le filet puis ils font une partie de hockey en plein milieu de l'océan glacé. Moi, c'est le summum pour moi. C'est retrouver mes racines et mon enfance.
La règle du jeu qu'on a ici, c'est de demander à mes invités de choisir 10 livres dont ils aimeraient nous parler. Dans un premier temps, vous nous avez proposé 19.
Excusez.
On vous a demandé de ramener ça un peu. Vous en avez choisi 13. Vous n'êtes pas superstitieux.
Mais là, je veux vous dire que ce matin, j'en ai amené que j'étais pas dans ma liste.
Je sais. Donc, ça a été difficile pour vous, l'exercice d'en choisir, d'en garder 10.
Ne serait-ce que... oui, c'était difficile. Puis, particulièrement du côté des livres d'histoire. J'aime beaucoup, beaucoup lire sur l'histoire. Je l'ai fait surtout adolescent et jeune adulte. Puis, ça, choisir dans ça, là, c'était difficile. Alors, j'ai vraiment décidé d'y aller dans des résumés plus. que des séries de volumes ou quoi que ce soit, un peu une série, là, mais ça, c'était difficile parce qu'il y en a tellement, et parce que l'histoire, on peut remonter vraiment très loin. Je me suis attardé à notre histoire, à nous ici. C'était un choix encore, mais pour moi, c'était vraiment l'histoire mondiale et de l'humanité qui m'intéresse. Donc, ça, c'était difficile à faire comme choix.
Premier livre que vous nous avez dit avoir lu, secondaire 1, Thérèse et Pierrette à l'école des Saints-Anges.
Ouais.
Premier livre, est-ce que ça veut dire que Tintin, Astérix n'ont pas bercé votre jeunesse?
Non, hey, au contraire, moi j'étais un fou de Tintin, Astérix, Lucky Luke, tout ça. C'est drôle parce que moi je viens d'un milieu ouvrier où il n'y avait pas la culture de la lecture. Ma mère lisait de temps en temps un Harlequin ou un roman photo. Fait que c'était ça qu'on voyait, donc j'avais pas cette curiosité-là naturellement inculquée par mes parents. Donc, après avoir passé à travers les bandes dessinées, je découvre qu'on peut lire un livre. Au départ, ça m'embête plus que d'autres choses, là, comme les petits gars de mon âge. J'ai comme pas le goût. Et il y a ce prof de français qui vraiment nous disait tout le temps, il faut lire, c'est important. Puis là, ouais, mais on trouvait tous que c'était une corvée, là, plus que d'autres choses. Puis à un moment donné, donc, lui, il dit, bon, là, c'est assez, là, parce qu'il nous avait laissé choisir nos livres. Mais finalement, on choisissait n'importe quoi. Ça n'avait pas d'allure, notre affaire. Et donc, lui, il nous arrive avec Thérèse et Pierrette. Et là, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai amené la grosse femme. Et ça, c'est la preuve. Hein, qui j'avais même réussi à le faire signer par Michel Tremblay.
Oh, bravo.
En 1980. Alors, donc le prof nous dit, je veux que vous... c'est obligatoire de lire Thérèse et Pierrette à l'école des Saints-Anges. Et là, je suis pas super content, mais je commence à lire ça. Et là, vraiment, là, je me souviens de ce moment-là de ma vie. Je suis en secondaire 1, là, on a quel âge, secondaire 1? De 12 ans? 12 ans, 13, 12 ans. Je suis assis, là, je me revois au pupitre, puis lire, puis là, avoir la première page de lu, puis me dire, wow, c'est comme... c'est proche de moi, c'est un peu ma vie, c'est un peu comment ça se passe chez nous à maison. Puis là, peut-être c'était juste la première page qui est comme ça, puis là, la deuxième. Puis là, après ça, plus vouloir arrêter, puis lire ce livre-là, qui est à peu près pareil, est un peu plus volumineux que La grosse femme, mais en une semaine et demie, là. Mais à ce moment-là, je pensais que ça se pouvait pas lire un livre en une semaine et demie. Et je pouvais pas m'imaginer que c'était même possible en quelques heures, là, mais... Et donc, c'est ça. C'est là, je considère que c'est le premier livre complet qui me donne le goût. C'est surtout ça que je lui accorde à ce livre-là. C'est ce livre-là qui m'a donné le goût de lire et d'explorer la lecture.
Ce qui est particulier, c'est que, contrairement à d'autres adolescents, vous n'êtes pas attiré par le dépaysement complet, mais au contraire, ce qui vous accroche, c'est un livre qui est très près du milieu dont vous êtes.
C'est vrai, c'est drôle. Je sais pas pourquoi. Moi, j'avais besoin d'être rassuré, peut-être. Je sais pas, par quelque chose qui me ressemble, qui me dépayse pas trop à ce moment-là. C'est sûr que ce qui est extraordinaire, c'est que ça m'amène là après vers d'autres choses. Mais on dirait que le fait d'être rassuré comme ça, ça m'a permis d'y aller au complet et puis de comprendre. C'est comme si on se donnait pas le droit de quelque chose de fantastique parce qu'on vient d'un milieu ouvrier pauvre, tu sais, comme si là né pour un petit pain, c'est tellement triste là, mais en même temps, c'est ça qui fait que après ça je me donne le coup de pied que ça prend pour découvrir le monde puis le reste de la littérature.
Mais c'est l'étonnement de constater que l'art, la culture peut parler de nous quand on est de milieu modeste, c'est toujours bouleversant de constater ça.
Ah, c'est certain que c'est beau. D'ailleurs, quand il fait parler des personnages, puis qu'il parle justement comme je parlais, puis comme j'entendais parler, moi, c'était presque même déboussolé et en même temps rassuré. Tu sais, c'est très paradoxal. Tu te dis, voyons donc, ça se peut pas parler comme ça dans un livre, mais c'est comme ça qu'on parle chez nous, c'est comme ça que ma mère me dit les affaires, tu sais. Quand il fait parler sa mère, c'est comme ça que ma mère me parlait. Donc, c'est ce qui m'a attiré beaucoup. Puis, suite à ça, tranquillement, au cours des années, je me suis rattrapé dans l'œuvre de Michel Tremblay que j'ai lu pas dans l'ordre, là, tu sais, et puis à un moment donné, quand j'avais rattrapé, je pouvais être à jour. Et donc, le fait d'avoir aussi en spectacle joué le rôle de Nelly Gant, que Michel Tremblay a écrit le texte, ben ça m'a rapproché de Michel Tremblay aussi. Puis ça, c'est des choses incroyables dans la vie qu'on se doute pas. Tu sais, quand t'es le petit gars du secondaire 1 dans ta classe, puis que tu lis le livre, tu t'imagines pas qu'un jour tu vas travailler avec Michel Tremblay, puis qu'il va dire non, cette ligne-là, c'est peut-être mieux comme ça, là, tu sais, de la faire. Tu te pinces un peu.
Compte tenu de ce que vous avez raconté de votre jeunesse, est-ce que vous vous êtes donné comme objectif d'amener vos enfants à la lecture?
Oui, c'est une drôle de question, pas celle que vous me posez, mais celle qu'on se pose pour dire comment on fait pour intéresser nos enfants à la lecture. Moi, je sens que à la base, bon, j'ai trois filles qui présentement donc ont 4 ans, 6 ans et 10 ans. Celle de 6 ans a ce goût-là naturel de lire. Quand elle se prépare le matin, elle va se préparer rapidement pour être sûre, avant de prendre l'autobus scolaire, d'avoir le temps de prendre son livre et de continuer à lire. Elle a 6 ans. Elle, c'est tout, là, je veux dire. On sentait la curiosité puis l'envie d'apprendre à lire, là, c'était... Tu sentais qu'elle avait tellement hâte de savoir lire pour pouvoir lire quelque chose. Celle de 10 ans, c'est plus, faut lui rappeler, tu sais, tout ça. C'est plus difficile, mais quand même, c'est là... Ça aide aussi quand les deux parents lisent beaucoup. Ma conjointe lit énormément. Donc, c'est une réalité à la maison. Donc, sans obliger, on rappelle souvent l'importance de la lecture. Et d'ailleurs, ça nous a amené à un truc. Celle de 10 ans qui vient de commencer là, à avoir un petit sa page Facebook, puis tout ça. Puis là, moi, j'ai dit OK. D'accord, c'est nouveau, là, c'est genre il y a un mois. Mais j'ai dit, je vais mettre une condition. La condition, c'est que avant que tu sois capable d'écrire de façon à l'Internet, là, avec des mots et de l'épellation puis de l'orthographe tout croche, là, tu vas me prouver que tu es capable de l'écrire comme il faut. Puis quand tu seras capable de tout écrire comme il faut, tu auras le droit de temps en temps d'écrire avec la nouvelle façon d'écrire sur l'ordinateur. Puis pour moi, c'est trop important. Puis une des façons d'apprendre ça, ben, c'est de lire et puis de voir comment ça se fait. Tu sais.
Alors, vous direz à votre fille qui a une page Facebook, que sur la page Facebook de Bibliothèque Archives Nationales, il y aura la liste des livres que vous avez choisis.
Excellent.
Et comme ça, vous pourrez l'inspirer doublement.
Nous cliquerons sur « J'aime ».
Voilà. Le petit pouce. Donc, vous avez lu, vous dites, tout Tremblay par la suite, ouais. Et bien sûr, les belles-sœurs. Et sur les belles-sœurs, vous avez été un peu l'arroseur arrosé, vous êtes arrivé quelque chose d'un peu particulier, non?
Oui. En fait, donc, je suis adolescent, mais je fais partie d'une troupe de théâtre amateur. Et puis, je découvre vraiment là la culture, l'art avec un grand A. Là, pour moi, là, c'est vraiment une révélation. Et dans la troupe de théâtre amateur dont je faisais partie, on pouvait jouer, évidemment, mais quand on n'était pas comédien dans une pièce, on pouvait faire l'éclairage, le son, les décors, tout ça. Donc là, c'est les belles-sœurs. Alors, je me retrouve à faire les décors. Je décide d'aider pour les décors. Fait que je suis bâtier décors, puis j'aime ça, puis c'est le fun. Puis on est en train de fabriquer ça pendant que dans une autre pièce, les filles commencent à faire des lectures, puis à répéter. Et là, à un moment donné, le metteur en scène rentre dans la salle des décors. On pense tous qu'il s'en vient nous dire qu'il aimerait ça de telle façon, de telle façon. Il nous dit plutôt, « Hey, Marc, c'est parce qu'il manque une fille pour jouer le personnage de Réona Bibeau. Et puis, on a pensé que tu pourrais faire ça. » Fait que, tu sais, mon goût de faire des affaires de toutes sortes, il est là depuis longtemps. Alors, je dis, oh, ouais. Il dit, ce qu'on va faire, là, on est même prêt, ce qu'on pourrait faire, c'est changer ton nom dans le programme. Pour pas que les gens focusent là-dessus puis disent, tu sais, hey, c'est un gars, ça. Donc, on va te donner un nouveau nom et puis tu vas faire ça. Puis j'ai embarqué dans ce truc-là et c'était extraordinaire faire ça. Je veux dire, j'ai joué donc le personnage de Réona Bibeau. De Michel Tremblay dans Des Belles-Sœurs.
Mais vous avez joué aussi au théâtre, avant même d'être chanteur.
Oui, ouais, c'est ça. Ben, à la base, je voulais être acteur. Puis c'était ça qui m'a vraiment attiré. Je faisais des parties de la troupe de théâtre amateur, tout ça. Et à un moment donné, assez tard quand même, dans l'adolescence, je découvre là la musique de toutes sortes. Mais je la découvre parce que la troupe de théâtre amateur que je faisais partie, c'était des adultes. Moi, j'avais 13-14 ans quand je suis entré là, puis ils m'ont quand même accepté. C'était quand même particulier. Mais eux autres, donc, m'ont amené à des influences musicales incroyables à cause de plein de monde dans cette troupe-là. J'ai aimé Ferré, puis Brassens, puis Brel, puis Béco, puis plein de grands que j'ai rencontrés après, plus tard, puis je pouvais pas le croire, tu sais. Mais tout ça pour dire que l'opéra, donc, arrive, et ça me remet en question sur seulement du théâtre, parce que je trouve ça extraordinaire. L'opéra, ça mélange le jeu et la musique. Puis la musique m'impressionne, aussi le fait d'être capable de produire autant de sons avec les mêmes deux petites cordes vocales qu'on a. Surtout les voix aiguës, plus on a une voix aiguë, plus les cordes vocales sont petites. Alors, donc c'est ça qui a changé la donne pour moi, là, qui a influencé mon choix. Et puis qui a fait qu'après ça, j'ai voulu faire de l'opéra.
Mais à ce moment-là, vous lisez beaucoup de théâtre.
Énormément.
Tout ce qui vous tombe sous la main.
Énormément. C'est drôle. Quand j'ai ressorti ça, je lis vraiment tout ce que je peux. Comme là, ici, c'est drôle. C'est trois pièces de Molière. Tartuffe, Don Juan, Misanthrope. J'avais pas ressorti ce livre-là depuis vraiment longtemps. Et puis, je vais dans ça. Donc, je lis Marivaux, Racine, Molière, tous les livres incroyables. J'ai un ami dont les parents ont les livres de la Pléiade et puis tout ouais. Ça. Donc, je deviens, là, je lis tout ça. Mais en même temps, je m'en vais aussi dans la littérature théâtrale québécoise, Marcel Dubé et compagnie. Et puis, c'est drôle, j'ai un drôle de feeling quand je lis. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Si je lis une pièce de théâtre ou un scénario. J'aime ça lire aussi des scénarios de films. J'ai découvert un moment donné, parce que je chantais à New York, je marchais, j'ai découvert une petite bouquinerie à New York, puis on peut acheter des scénarios de films. Puis, donc, j'achetais ça. Puis, quand je suis en train de lire une pièce de théâtre ou un scénario, chaque personnage dans ma tête a sa propre voix. C'est un peu bizarre, là. C'est un peu ésotérique, mais je suis à jeun, là. Et vraiment, vraiment, là, chaque personnage a sa voix, a sa façon d'être. À la limite, je le vois physiquement. Puis c'est pour ça que, tu sais, il y en a qui vont dire c'est difficile à lire une pièce de théâtre, c'est bizarre. Moi, c'est vraiment là une façon extraordinaire, tellement que quand dans les textes il y a un didascalie qui nous décrit la scène ou qui nous dit tel personnage arrive de telle place ou il ressemble à tel, majoritairement je vais pas lire ça. Je laisse vraiment juste mon imagination prendre le dessus, puis faire ses personnages. Puis ça fait que la pièce, là, je lis ça dans le temps de le dire, et puis c'est comme aller m'asseoir au théâtre. Tu sais, je vous racontais l'anecdote quand j'étais tout petit, justement. Je devrais dire quand j'étais jeune, peut-être pas tout petit. J'ai jamais été tout petit, je pense. dans les Tintins, il y avait la Castafiore. Puis elle chantait l'air des bijoux. Puis bon, moi, elle chantait toujours la même phrase en plus. Ah, je ris de me voir si belle dans ce miroir. Puis moi, je lisais ça et je m'étais vraiment fait une chanson qui était exactement la même. À chaque fois que je voyais cette phrase-là, je la rechantais de la même façon en lisant la phrase. Puis un jour, je suis vraiment rendu adulte, là. Ça, c'est quasiment un squelette dans le placard. Je découvre que cette phrase-là existe pour vrai dans un opéra parce que je suis dans une répétition puis j'entends la fille chanter. Puis là, dans ma tête, ça dit « Hey, elle chante la chanson de Tintin! » Puis là, elle chante pas la même affaire que moi. Moi, c'était pas ça dans ma tête, la chanson. Mais bon, c'est une anecdote, mais quand même, tu sais, je trouve ça intéressant parce qu'on se fait avec le livre, avec ce qu'on lit, on peut se faire notre propre histoire. D'ailleurs, ça m'amène à penser à un truc. Les gens vont me dire des fois, ouais, mais je sais pas si je peux aller à l'opéra, tu sais, parce que bon, moi l'italien, je comprends pas ça, l'allemand, je comprends ça. Je dis, écoutez, les surtitres sont au-dessus de la scène. Vous pouvez lire, c'est un résumé, c'est facile, ça se fait bien. Mais j'ai dit, je vais vous donner un meilleur truc que ça. Je partais avec le principe que il y a un ténor, il y a une soprano. Eux autres, d'habitude, sont en amour. En principe, la soprano va mourir à la fin. Ça va prendre un peu de temps avant qu'elle meure. Elle va essayer de coucher avec le baryton avant. Et ça, c'est le principe de base. Le reste, fermez vos yeux, écoutez la musique, puis laissez-vous créer une histoire là, dans votre tête. Puis je vous le dis, elle va peut-être être meilleure que celle que je raconte. C'est vrai, tu sais, c'est faut laisser son cerveau se faire plaisir.
Avec toute cette imagination-là, est-ce que vous avez raconté des contes, des histoires à vos enfants, justement, avec toutes ces voix-là?
Ouais, un peu. Avec des voix, évidemment. Là. Mais pas tant que ça, finalement. J'ai plus fredonné des chansons. D'ailleurs, une de mes filles, une fois, me dit... Papa, viens me chanter une chanson pour m'endormir, tu sais. Puis j'arrive à côté du lit, puis je viens pour commencer. Puis elle dit, mais pas de l'opéra, hein, c'est trop fort.
Alors, vous avez eu votre période historique.
Ouais.
Vous avez parlé de ça un peu tout à l'heure. Vous avez beaucoup aimé la série du Boréal Express.
Oui.
Et il y en a une version un peu plus résumée, succincte, qui s'appelle Notre Histoire.
Mm-hmm.
Jacques Lacourcière, c'est lui, ouais, qui est votre mentor dans l'écriture historique.
Ouais. Du Québec, évidemment.
Oui. Et donc, dans le Boréal, ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit au présent. C'est comme si c'était un reportage journalistique.
Oui, exact.
Ça vous a plu en particulier?
Ah, c'est très agréable, ça. Vous souvenez-vous, je pense aussi, pour les 100 ans de la presse avait sorti un immense volume rouge où il y avait les pages frontispices de la presse de chaque journée de l'année il y a 100 ans. De la première année. Et puis ça, c'est des documents extraordinaires. Donc, autant que le Boréal Express, les gros volumes qu'on lisait. C'est drôle, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je les ai vus à la maison. Je n'ai pas été capable de m'empêcher de feuilleter un peu la série de volumes de Jacques Lacourcière. Celui-là aussi, Une histoire du Québec, qui est comme quelqu'un qui trouverait ça ennuyant ou embêtant de lire l'histoire. Moi, j'ai un principe qui dit... Aujourd'hui, en 2011, on sait pas tout à fait où on s'en va. Mais je pense qu'une des raisons, c'est parce qu'on sait pas tout à fait d'où on vient. Puis, moi, je trouve ça bien important de vraiment savoir. Et ça influence notre choix de vie et de croyances et politique et tout, quand on sait vraiment d'où on vient, puis qu'est-ce qu'on a vécu et qu'est-ce que les gens qui nous ont précédés ont vécu. Et celui-là, c'est le fun parce que c'est vraiment un résumé très rapide là de des grands volumes qui c'est une série de 3 volumes là,
oui,
qui avait fait. Oui. Et c'est très intéressant puis ça se lit tellement vite et facilement avec des j'aime bien ça aussi quand ils nous mettent des reproductions des documents de l'époque puis tout ça. Donc j'ai vraiment eu cette période-là. Cette période-là, c'est la période d'histoire du Québec, c'est vraiment à partir de 16-17 ans, où là, j'ai vraiment passé à travers tout ce que je pouvais passer. Puis après, plus tard, là, je reviens en arrière, puis là, je me promène dans les histoires des rois de France, puis tout ça, là, ça a été vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, quand on va se promener quelque part, je suis le spécialiste de m'arrêter à chaque petite plaque qui existe, qu'on voit sur la rue. Puis je trouve ça le fun, je trouve ça intéressant de savoir, de vraiment avoir ce goût-là. Donc, l'histoire, pour moi, prend une grande place dans ma lecture.
Et sans parler d'options politiques, mais pour vous, l'histoire du Québec, là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Vous y voyez un sens? Ou qu'est-ce que ça pour votre vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est?
Bien, déjà, quand on regarde, quand on regarde à la base et qu'on sait vraiment comment ça s'est passé avec l'arrivée des Français, les Anglais, comment les batailles, comment les échanges, on était un peu aux Français, un peu aux Anglais, revenus aux Français, retournés aux Anglais, comment aussi la réalité des gens qui étaient, on pense qu'on est arrivé ici, là, puis qu'on, mais quand on lit dans l'histoire, on voit qu'il y en avait qui étaient là depuis pas mal longtemps avant nous. Donc, de savoir ça plus tard, moi, ça m'influence aussi dans comment on vit ici et comment respecter ceux qui étaient là avant nous et comment je trouve ça triste qu'il y ait la situation, entre autres, présentement, face aux Autochtones, entre autres. Moi, j'ai beaucoup de sang. C'est ça qui est ma
couleur. Ah, c'est pas le bronzage.
Voilà, je suis du côté de ma mère. mon arrière-grand-mère était 100% Micmac du Nouveau-Brunswick, du nord du Nouveau-Brunswick. Donc, on est très, très proche dans ça. Et bon, je vois la situation, ça m'influence. Et puis, après, on se fait notre idée politique à chacun. Tu sais, ça appartient à chacun. Mon père nous disait tout le temps, quand tu vas être dans l'isoloir, tu es tout seul, il n'y a personne qui te regarde. Mais mettons X à la bonne place. Je sais pas ce que ça voulait dire. Là, et puis, ben voilà. Mais au moins, ça nous permet de faire ce choix-là. Donc, pour moi, l'importance d'être lucide face à où on veut s'en aller politiquement, face à ce qui s'est passé avant.
Écoutez, si l'envie vous prend de relire Boréal Express, en fait, c'est trois volumes qui reprennent 46 numéros de revue. C'est aussi sur notre site Web.
Okay.
Et vous pouvez faire une recherche par mots-clés, par expression. Wow. Donc, allez exactement où vous souhaitez aller. Donc, Boréal Express, trois volumes. Ensuite, Émile Zola, Germinal, un peu l'histoire de Michel Tremblay, votre découverte de cet ouvrage-là, coup de cœur d'adolescence. Et là, vous reconnaissez aussi votre vie dans ce livre-là.
En fait, Germinal, c'est un coup de masse. Tu sais, je lis ça, puis... j'en reviens pas comment on fait juste changer d'auteur, mais dans le fond, c'est la même histoire. Et ça me rapproche et ça me touche aussi parce que c'est un peu l'histoire de mon père aussi qui travaille à l'usine pendant 42 ans et qu'on considère absolument pas, même s'il y a... Pour lui, sa vie, là, c'était d'aller travailler à l'usine. Il travaillait à la Sucre Saint-Laurent, qui est devenue Sucre L'Antique. Mais pour lui, c'était toute sa vie, ça. Et à la fin de sa vie, on y dit vraiment, parce que là, t'es plus vraiment bon à grand-chose, fait que, bye-bye. Et c'est un peu ça que je retrouve dans ça, dans Germinal. Moi, j'ai perdu mon père à l'adolescence, parce que mon père était assez âgé quand je suis né. Donc, quand lui est tassé, c'est la période où je suis en train de lire Germinal. Et donc là, c'est la révolte adolescente de la mi-adolescence à me dire, écoute, qu'est-ce que ça donne de travailler, puis de faire ci, puis de faire ça, pour qu'il y ait ce résultat-là. Donc moi, quand je lis ça, c'est vraiment une révolte terrible, puis en même temps, je vois le rapprochement avec Tremblay, avec la vie ordinaire, des gens que je connais. Je peux mettre des visages sur ces personnages-là, puis pourtant, ils sont dans une mine en France. Donc, ça, pour moi, là, c'est vraiment un grand moment de littérature. C'est drôle parce que je l'ai relu assez souvent, Germinal, là, peut-être au moins 4 fois. Et une fois, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être... 3 ans où je l'ai ressorti.
Mais, contrairement au personnage de Tremblay, qui vivent la résignation, les mineurs, eux, ils se révoltent.
Oui, exactement. Exactement. Puis c'est ça qui est rassurant aussi, en même temps, pour moi, à ce moment-là. Et c'est le parallèle aussi que je faisais avec mon père, parce que mon père a travaillé 42 ans à l'usine. Là, à un moment donné, on lui dit, une journée, il a 62 ans, il arrive un matin, puis on lui dit, c'est fini aujourd'hui. On l'a pas préparé, là. On lui a dit, aujourd'hui, c'est fini. Lui, il dit, écoutez, vous allez quand même pas me niaiser comme ça. Vous n'allez pas me faire travailler jusqu'à 4 heures aujourd'hui. Je vais prendre mes affaires et la tête haute, je vais juste m'en aller parce que vous ne voulez plus de moi. Alors, il part, il s'en va. Et ça, c'est une image tellement claire et tellement dramatique pour moi. Moi, j'étais à la maison pour le dîner. Et mon père venait jamais dîner à la maison. Moi, je venais dîner de l'école. Et là, la porte ouvre. C'est surprenant. Je regarde, c'est mon père. Il descend le corridor, vous savez, les appartements, donc, avec dans Schlager-Maisonneuve, le grand corridor. Il a son sac, et je vois dans son visage qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Il rouvre la porte d'entrée qui menait à la cave. Il prend son sac, puis il lance son sac dans la cave, puis il dit, je m'en servirai plus de ce sac-là. Puis il referme la porte. Et ça, c'est une image, là, terrible d'adolescent, là, je le vois, là, puis je sais qu'il y a quelque chose de dramatique qui arrive, puis qu'il ne voit pas. Et là, pendant 1 an de temps, il va être assis sur une chaise berçante dans la cuisine, puis il parle presque pas. Puis il regarde dehors, puis il voit ma mère partir le matin travailler. Puis lui, ce qu'il se dit, c'est « je suis plus bon à rien ». Puis là, au bout d'un an, il se dit « hey, qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» Et là, il se révolte. Et là, il se rend compte que lui, la loi d'assurance chômage a changé, là, genre 2 jours avant que lui, on le mette à la porte. Donc, il aurait pu réclamer beaucoup plus, en tout cas. Et il décide de partir le mouvement pour se battre contre ça. Et il le fait, puis il passe aux nouvelles, puis il est dans les marches, puis envoyé donc. Et il meurt. Il meurt, et 3 semaines après qu'il meurt, ça c'est 1 an plus tard, 3 semaines après, on reçoit un coup de téléphone pour nous dire, c'est l'avocat qui avait pris, et l'avocat qui nous dit, bon, je sais que M. Hervieux est décédé, mais je voulais juste vous dire qu'on vient d'avoir le jugement, il a gagné sa bataille. Et ça, tu sais, c'est... Ça, c'est quelque chose. T'sais.
Sans doute. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est que Germinal, ça vous a allumé, lutte pour l'égalité, et là, vous œuvrez dans le milieu de l'opéra. Et moi, on m'a toujours expliqué que le milieu de l'opéra, c'était le milieu le plus inégalitaire au monde. Il y a des... La madame, c'est une prima donna. Et puis, on m'avait même dit qu'à une époque, il y avait des gardiens de sécurité qui empêchaient les chœurs de parler aux chanteurs à l'opéra. Alors, comment le lecteur de Germinal vit ça, ce monde-là?
Bien, justement, quand je suis arrivé à l'opéra, c'est drôle, c'est une période où on changeait un peu de génération de chanteurs. Les chanteurs qui étaient là depuis un long moment commençaient donc à laisser leur place. Et puis, évidemment, dans la formation de chanteurs, on se faisait dire... faut que tu fasses ça comme ça, comme ça, comme ça. Puis c'était vraiment fou. Hein? Tu n'avais pas le droit de te rebeller contre rien ou de. Et au départ, moi, j'ai refusé ça en pensant que c'était pas un monde pour moi. Donc, une journée, j'avais même dit à ma blonde, j'ai dit, écoute, regarde, moi, je laisse ça. Là. J'ai fini mes études, mais je rentrerai jamais dans. Parce que les études puis la vie de chanteur, c'est deux. Là. Alors, quand j'arrive dans le monde de l'opéra pour vrai, je vois que c'est comme ça, je dis, moi, regarde, je vais retourner graphiste, il n'y a pas de problème, mais je ne me comporterai pas de cette façon-là. Et là, ma blonde me dit, je comprends pas que tu n'aies pas le réflexe de juste vouloir le faire normalement, comme tu es, avec ta personnalité. Ouais, c'est drôle, hein? Je m'étais comme pas donné le droit de faire ça, tellement que les habitudes étaient ancrées. Donc, j'ai juste fait ça à ma façon. Et je fais partie, et puis je suis bien content de ça, je vais toucher du bois de cette génération de chanteurs-là qui est arrivée et qui a dit non, nous autres, on n'est pas là pour jouer une game. Moi, je fais de l'opéra parce que j'aime ça, là. Je fais pas de l'opéra pour impressionner ma mère ou mon père ou n'importe qui. C'est très égoïste. À la base, c'est parce que moi, là, j'aime ça, le faire. Donc, on est arrivé, on a changé beaucoup, beaucoup les mentalités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde de l'opéra, ça existe à peu près plus des divas. Il y en a quelques-uns ou quelques-unes, des divos ou des divas, mais ça s'élimine par eux-mêmes, dans le sens où vous autres, au bureau, là, s'il y a quelqu'un qui est une pomme pourrite, on n'a pas le goût de travailler avec. Hein? Puis si on a le choix de travailler avec quelqu'un d'autre, on va le faire. Dans un bureau, c'est plus difficile parce que c'est un employé régulier. À l'opéra, on travaille 5 semaines ensemble. On monte un opéra, on le joue, puis après 5 semaines, on s'en va en faire un autre. Mais à un moment donné, c'est un petit monde, même si la planète est grande. Et quand quelqu'un se comporte d'une drôle de façon, ben ça se sait rapidement. Puis là, on dit, ben on n'a pas tellement envie de le mettre sur... D'ailleurs, moi, les plus grands chanteurs avec qui j'ai eu le plaisir de chanter ou que j'ai rencontré, qui étaient vraiment des méga vedettes internationales du monde de l'opéra, à chaque fois, ça a été vraiment des rencontres, des gens extraordinairement gentils et qui n'avaient pas... Parce qu'ils n'ont pas à cacher leur insécurité derrière ce genre de comportement-là. Tu
sais, parce que quand vous décidez, vous, que vous allez modifier ça, vous avez des petits rôles, vous n'êtes pas la vedette. Donc, vous êtes pas confronté à des gens qui, eux, continue à agir de la même façon.
Oui, oui. Ben moi, je suis un chanceux. Quand j'ai fini l'école, j'ai presque instantanément fait le premier rôle de ténor. Donc, j'ai pas beaucoup. J'ai chanté un peu à l'atelier lyrique des petits rôles, mais très peu, peut-être 4 ou 5 productions où j'ai fait des petits rôles. Le reste, j'ai toujours été le ténor principal. C'est une question de voix aussi, là. Mère Nature n'a pas été super généreuse pour les ténors lyriques, entre autres, comme moi. Donc, j'ai fait beaucoup ça. Mais moi, j'ai jamais supporté ça, même quand ça s'adresse pas à moi. Quand, par exemple, un chef d'orchestre va avoir une attitude mauvaise et puis qui a pas de bon sens, pour, comme je disais tantôt, dans le fond, cacher son insécurité, là. Je me suis jamais gêné pour le dire. J'étais un peu, des fois, je suis connu comme ça dans le milieu de l'opéra. S'il y a une injustice ou s'il y a quelqu'un qui se comporte ou qui parle à un collègue d'une bizarre de façon, vous pouvez être sûr qu'il va le savoir. Puis je vais juste le prendre à part en premier pour dire, écoute, je pense que là, on fait fausse route, puis ça dépeint sur toute l'ambiance qu'il y a en répétition. Puis un cast, une équipe d'opéra ou de spectacle qui est heureuse, ça fait toute la différence après sur scène. Si les répétitions se sont passées dans ce genre d'ambiance-là, c'est sûr que sur scène, ça va paraître aussi. Donc, mais probablement que je tiens ça justement de mon père qui se battait beaucoup pour ça, l'injustice et tout ça. Mais c'est la base, se parler comme du monde, il me semble.
Et vous me disiez que c'est pas juste à Montréal, c'est international. Ah, cette relation-là, plus facile, plus souple.
Oui, ouais, c'est vraiment mondial. Je vais vous dire, c'est drôle, ce que vous avez dit tantôt sur les gardes de sécurité. C'est pas tout à fait ça, mais j'ai vécu une situation incroyable. J'ai chanté la Traviata au Kirov Opéra, au Mariinsky, à Saint-Pétersbourg, en Russie, dirigé par Valérie Gergiev. Et c'est une drôle d'histoire, parce qu'en fait, moi, je suis un jeune chanteur, je suis à Londres, je m'en vais chanter Manon à Genève. Et puis, je suis en escale, mais mon billet d'avion, il me coûte moins cher si je passe 2-3 jours à Londres. Fait que je reste à Londres chez quelqu'un. Et puis, je réussis à avoir le numéro de téléphone cellulaire de Valérie Gergiev. Contact privilégié. Et je prends le téléphone, puis je l'appelle. Puis je dis, garde, il va me dire non ou il va me dire oui. Je dis bonjour, en anglais tout ça, mais je dis bonjour, je suis un jeune chanteur du Québec, du Canada, puis je sais que vous êtes à Londres pour 2 concerts, alors si c'est possible, j'aimerais ça chanter pour vous, pour auditionner. Il me dit oui. Il me dit, viens au Barbican Center, c'est là qu'on joue avec l'orchestre du Mariinsky, puis je vais te passer en audition. Mais c'est ça que j'ai fait, je suis allé, et il m'avait donné rendez-vous à 2h30. Il est arrivé à 6h15. Et moi, je me suis dit, j'ai-tu d'autres choses à faire? Non, je reste.
Vous lisiez en attendant?
Ouais, je lisais. et c'est vrai, il est arrivé, et ce qui est extraordinaire, c'est que quand il est arrivé, il a dit, « Hey, le chanteur que je devais voir, il est-tu encore ici? » Et je dis, « Oui! » Et j'ai auditionné. Donc, j'ai chanté pour lui. Et lui, il m'a dit tout de suite, « Viens chanter Traviata en Russie. » OK, donc ça s'est organisé rapidement. J'arrive en Russie et les choristes, c'est drôle parce que c'est le début, là, ça fait pas longtemps que la Russie change son régime. Les choristes qui sont là-bas, qui sont engagés, donc c'est un travail à temps plein, hein, régulier, tout ça, ils font partie d'une troupe, ils ont cette curiosité-là puis ce plaisir-là de vouloir venir me parler puis qu'on se raconte nos vies, dans le fond, puis comment ça se passe, puis comment tu fais, puis c'est quoi tes contacts, tout ça. Mais ils viennent quand je suis dans un corridor puis qu'il n'y a personne. Puis je vais vous dire, là, une fois, il y a une fille des chœurs qui vient me parler puis elle me pose des questions sur comment elle pourrait faire pour aller faire des auditions parce qu'elle n'a pas de moyens, parce qu'elle ne sait pas comment ça marche puis tout ça. Moi, j'y donne les informations et quand au bout du corridor, il y a quelqu'un qui arrive, elle disparaît. Je vous le dis, là, elle disparaît. Il ne faut pas qu'elle soit vue en train de me parler. Parce qu'elle va se faire dire, hey, t'as pas d'affaire à parler. Hey, écoute, faut le faire, là. Mais et là, ça, une chance que ça n'existe plus, tu sais. Ça, c'était au début, ça, c'était en 2001, décembre 2001. Okay. Donc, une chance que ça n'existe plus, parce que, écoute, il y a quand même des limites, là.
Parce qu'en 2001, c'est pas un reflet du régime. C'est. Mais 2001,
C'est les séquelles.
Ah oui.
Tu sais, dans le fond, là, c'est les séquelles de la situation.
Bien, puisqu'on parle de régime politique, Roméo Dallaire, Je serrai la main du diable. Donc, adulte, vous vous mettez à la biographie.
Oui.
Beaucoup.
J'en ai plein de
peu de romans. Ça vous convient particulièrement, ce genre biographique?
C'est toutes des biographies.
OK.
J'en ai amené plein, en fait, parce que vraiment, c'est drôle. De toutes sortes. C'est drôle parce que ce que je vous disais, c'est que ce qui m'intéresse dans la biographie, c'est qu'on peut s'intéresser à la vie de quelqu'un dont on ne partage absolument rien des valeurs ou de l'être humain qu'il est. Peut-être pour comprendre. Donc, dans ma vie, pour moi, c'est entre autres les documents et les biographies sur Hitler. Mais aussi, après ça, quand on va s'en aller vers des gens qu'on admire ou qu'on aime, qui est complètement l'opposé, c'est extraordinaire parce que souvent, ces gens-là, on connaît très peu de l'espace-temps de leur vie qui est public, mais tout ce qui est avant, tout ce qui est après, tout ce qui a amené à la situation, pour moi, c'est tellement intéressant. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et dans toutes les sphères. Donc, c'est comme ça qu'on peut se permettre aussi de lire une journée la vie d'un politicien, puis le lendemain d'un artiste, et puis la femme d'un tel, ou peu importe. Les grands musiciens ont de compositeurs aussi, les correspondances des grands compositeurs. Moi, ça m'a intéressé énormément. Parce qu'après ça, quand on écoute Schumann, Schubert, Mozart, on l'écoute d'une autre oreille quand on connaît un peu leur vie, quand on a lu des correspondances avec des librettistes ou avec des femmes avec qui ils ont été en amour puis à qui ils ont écrit certains rôles d'opéra. Et puis là, en tout cas, tout ça devient un lien intéressant pour l'écoute de la musique. Parce qu'on vraiment, moi, je sens quand je fais ça, l'influence musicale que ça a sur la composition, donc les lectures et la vie.
Dans le cas d'Allaire, là, vous allez plus loin, vous l'avez rencontré.
Ouais, vraiment.
Ça a été marquant.
Ah, ça a été extrêmement marquant. Je rêvais ça, tu sais. Je l'avais vu souvent en entrevue. J'avais entendu raconter son truc, et puis j'avais lu donc J'ai serré la main du diable. Puis dans ce livre-là particulièrement, quand il y a des scènes là, quand il parle au téléphone puis qu'il raconte que il est en train d'essayer de convaincre et pas de convaincre, mais qui dit en fait à ses supérieurs, non, je m'en vais pas, je reste ici, je peux pas m'en aller, je vais rester ici. Il dit, et qui raconte que en arrière de lui, on entend les gens évidemment être assassinés et tout ça. Tu peux pas faire autrement que comme quand tu lis une pièce de théâtre, là, je veux dire, ces scènes-là sont restées dans ma mémoire longtemps. J'ai jamais assisté et j'assisterai certainement et j'espère jamais à des scènes comme ça, mais on s'en fait une image d'horreur terrible. Et donc, lui, d'avoir été pris dans cette situation-là, tu sais, de cette décision-là, et de décider consciemment qu'il y a de ces hommes qui vont périr, mais pour protéger d'autres. Je ne sais pas comment je vivrais avec ça, moi, aujourd'hui, si j'avais pris ces décisions à lui. Donc, et à un moment donné, c'est ça, je l'ai rencontré. C'est drôle, mes biographies, la plupart de mes livres, il y en a souvent, celui de Roméo Dallaire est signé, celui de récemment, j'ai pu faire... écoute, c'était extraordinaire, ça. Je suis dans un concert, je donne un concert à Charlevoix, à Saint-Irénée. Et puis, pendant que je chante, je regarde les gens, puis à un moment donné, je reviens comme 3-4 fois. Non, c'est Hubert Reeves, ça. Tu sais, et là, et la vie est drôlement faite, là. Dans mon sac, à ce moment-là, j'ai ce livre-là.
Je n'aurai pas le temps.
Je dis à l'entracte, faut pas que Hubert Reeves s'en aille après le show. Barrez pas, faites quelque chose. Et donc, j'ai pu lui... Et c'est en octobre dernier, j'ai pu lui faire signer le livre.
Alors, vous avez lu aussi « Au nom de tous les miens » de Martin Gray. Ouais. Ça, c'est un livre coup de poing.
Marquant. J'imagine que c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup de gens ont lu, hein, évidemment.
Ben, ça a été un grand best-seller, bien
ouais.
sûr.
Puis moi, c'est drôle, hein, c'est particulièrement cette édition-là de poche que j'aime parce que c'est un livre que j'ai lu et relu et relu. Des fois, juste certains passages. Des fois, juste regarder un passage où il y a des plans, où il y a des... Et là, le remettre dans ma poche. Puis je l'ai souvent traîné avec moi un peu partout où je suis allé. Et récemment, j'étais... Ça fait name dropping, là, mais c'est pas grave. J'étais dans l'avion, puis j'avais un long trajet d'avion. Mais ça, c'est la vie des chanteurs d'opéra. Je m'en allais à Kuala Lumpur, en Malaisie, chanter avec l'Orchestre symphonique de Malaisie. Puis, à cause qu'il n'y a pas longtemps, peut-être un an, j'avais ressorti le livre de Martin Gray et que j'avais relu. Récemment, j'avais vu chez Archambault le coffret Apocalypse, qui est un documentaire sur la Deuxième Guerre avec les vraies images de la Deuxième Guerre mondiale, colorées et remasterisées, et refaites et remontées. Et donc, ça m'a amené à regarder tout ça et voir, dans le fond, toutes les images que j'avais en tête, que des fois, j'ose pas voir autrement, que j'ai vues pour vrai. Et je veux dire... Ce que j'avais en tête, là, je l'ai vu, c'est troublant, là, je veux dire, cette situation, cette partie-là de notre histoire bien triste. Alors, oui, c'est un livre que j'ai relu et relu.
Puis ça vous a amené justement à vos biographies sur Hitler. Ouais. Une qui s'appelle Hitler, la chute dans le bunker, mm-hmm. heure par heure.
Ouais.
Une qui s'appelle Dossier Hitler et J'étais le garde du corps d'Adolf Hitler. Donc, fascination sur Hitler, ça vous a appris des choses sur lui sans doute, mais
ouais.
aussi peut-être sur le genre humain,
ouais,
sur
ouais.
vous-même.
Ben, moi, ce qui me fascinait à la base sur ce bonhomme-là, c'est j'essayais de comprendre comment on pouvait être quelqu'un d'aussi ignoble, mais aussi puissant. Ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est impossible. Le pouvoir que cet homme-là avait sur un peuple entier. Bon, tu peux dire il va avoir un pouvoir sur le peuple pour une raison quelconque, mais là, une raison qui est incroyable, de réussir à leur faire croire qu'il faut anéantir une autre nation, c'est quand même, ça n'a pas de bon sens. Donc, les premières fois que je me suis intéressé à ça, c'est plus avec, par exemple, le troisième, là, J'étais le garde du corps. Ça, c'est intéressant. C'est une lecture vraiment très facile, ce petit livre-là. C'est donc le gars qui raconte que lui, il était toujours avec Hitler et il a été le dernier, en fait, à quitter le bunker au moment où ils savent que c'est terminé. Lui raconte vraiment, c'est quand même impressionnant parce qu'il était tout le temps avec lui. Mais il n'y avait jamais de contact avec. Il était tout le temps à côté, au cas où, mais il n'y avait pas de confidence, il n'y avait pas de bonjour, il n'y avait pas de contact entre les deux. Tu sais, lui, de temps en temps, là, peut-être une fois par année, il pouvait avoir un petit clin d'œil, là, mais ça s'arrêtait là. Tu sais, il n'y avait pas. Donc ça m'avait impressionné aussi. Puis après, bon, je suis allé dans les autres. Pour lire récemment, celui-là, C'est super intéressant, mais c'est vraiment très didactique, journalistique. C'est en fait, c'est des enquêtes que Staline avait commandées sur Hitler et qui ont retrouvé dans les archives en Russie. Et des journalistes, donc, se sont intéressés à ça et en ont fait un résumé, si on veut, sur ce qu'ils trouvaient au sujet de Hitler. Donc, c'est assez technique. C'est un livre. Si vous aimez pas là voir des aller, tu sais, dans la page, là, il va y avoir 4-5 fois des petits chiffres. Il faut aller voir en bas, puis il faut aller voir à la fin. Si vous aimez pas ça, oubliez ça là, parce que
c'est comme des didascalies au théâtre.
Vous allez vouloir le brûler. Mais pas sans faire de jeu de mots. Mais c'est intéressant parce que ça aide à comprendre et ça n'amène absolument pas à accepter quoi que ce soit. Malheureusement, ce que tu apprends, c'est que l'être humain est capable de deux extrémités, les pires comme les meilleurs. Et dans ce cas-là, c'est assez dérangeant de voir ce qui réussissait, lui, à faire croire et à inculquer à ces gens-là.
Alors, heureusement, dans vos biographies, il y a des sujets plus rigolos.
J'espère!
Oui, là, notamment, trois grands chanteurs du 20e siècle. Tout d'abord, un ouvrage de Jacques Boucher et Odile Thibault. À tour de rôle, au pluriel, Joseph Rouleau, basse,
ouais.
Itinéraire artistique. Alors, Joseph Rouleau, ben, vous le connaissez sans doute, vous êtes
croisé.
Oui,
on est des bons amis.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le chanteur d'opéra, chanteur, qui a eu la plus belle carrière internationale parmi les Québécois?
Je pense que oui.
Peut-être Quilico, mais sûrement
Rouleau. Non, mais je pense, parce que c'est gigantesque. Mais ce que je trouve important dans ça, c'est de penser que ce monsieur-là a fait le tour, a d'abord été attaché à Covent Garden, à Londres, pendant 28 ans, et a fait le tour du monde, je ne sais pas combien de fois, était un petit gars de Matane, et puis chantait Boris Goudonov, qui est le grand rôle des basses, partout en Russie. Alors que des grandes basses russes, il pouvait y en avoir, mais on faisait appel à lui. Et c'est un monsieur extraordinaire aussi qui, bon, comme je le connais, est un conteur extraordinaire et bon, Joseph a 82 ans, je pense. Et il te raconte sa vie de chanteur, il te raconte, c'est juste, il te dit pas, cet après-midi-là, il faisait 22 degrés, il pleuvait, puis je portais des culottes brunes, tu sais. Ça se peut pas, tu sais, c'était en 1948. Joseph, comment tu fais? C'est extraordinaire. Pour moi, ça, c'est un héritage important. Il faut savoir ça, il faut connaître ça. Et particulièrement aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on vit une période faste de jeunes chanteurs d'opéra qui sont québécois, qui sont alentours partout sur la planète et qui occupent les plus grands rôles dans les plus grandes maisons d'opéra. Et puis, on le sait pas. On le sait pas ici, là, hein, qui, tu sais, veut dire, tu sais, je pourrais donner des noms, là, puis je pense pas que beaucoup de monde ici savent ça. C'est des gens qui ont une présence sur la scène d'opéra mondiale gigantesque. Et donc, moi, je me dis, il faut en parler, il faut en être fier, surtout, c'est ceux qui nous représentent partout sur la planète.
Et aussi, vous avez retenu un livre de Placido Domingo qui est technique.
Oui.
Il parle juste de 62 de ses 120 rôles. Ça, c'est incroyable. 120 rôles, ça donne le vertige.
Ah oui, c'est quelque chose. Puis depuis qu'il a fait ce livre-là, là, il y en a d'autres. Là, c'est plus 120 maintenant.
Donc, lui, il parle de ses rôles. Oui. Il les explique. Alors, quand vous allez écrire mes rôles à l'opéra, de quel rôle vous avez l'impression que vous pourriez avoir, sur lequel vous auriez le plus de conseils à donner, que vous auriez des observations à faire?
Ben, justement, à avoir lu le livre de Placido Domingo, quand on m'a offert, lui, le rôle qu'il dit qui est le plus difficile, c'est Hoffman, des contes d'Hoffman. Et quand je suis arrivé, puis qu'on m'a offert ça, et que j'ai abordé ce rôle-là, tu sais, j'avais lu ça, là. Donc, vraiment, j'étais sur mes gardes, puis il y avait pas mal raison.
Oui.
C'est de l'ouvrage. Donc, c'est sûr que ça influence beaucoup. Moi, personnellement, celui qui m'amènerait le plus d'anecdotes, probablement que c'est Traviata, Alfredo dans Traviata, parce que c'est l'opéra que j'ai chanté le plus. Plus de, je sais pas, 17, 18 productions jusqu'à présent. Et puis, donc, chaque fois, plusieurs représentations, je ne sais pas combien de fois au total. La Bohème aussi, que j'ai joué beaucoup. Ça serait, je pense, les deux dont je pourrais raconter, en tout cas, le plus d'histoires.
Et on ne l'oubliera pas, Pavarotti,
ouais.
Par Eve Ruggieri, que ouais. Vous avez rencontré,
oui.
Que vous connaissez. Et là,
les deux.
C'est l'inverse. C'est pas technique, c'est la biographie.
Ouais, ouais.
Mais ça l'homme, vous a accroché autant.
Ouais, la vie. Bien, c'est extraordinaire parce que j'ai rencontré et Pavarotti et Eve Ruggieri. Eve Ruggieri, c'est la dame qui fait les émissions de musique classique sur France 2 en France, mais qui s'occupe aussi de plein de festivals en France, surtout dans le sud de la France, l'été à Juan-les-Pins, Antibes, Lacoste, tout ça. Et moi, je suis allé jouer là pour elle là-bas, la Traviata, entre autres, à l'Opéra de Nice, à Antibes, Juan-les-Pins. Et puis Pavarotti, que j'ai rencontré, j'étais jeune chanteur d'opéra, puis j'étais en répétition pour la Traviata. Puis je sais qu'il est dans la salle de répétition à côté. Puis là, je me dis, non, c'est sûr que j'attends juste la pause. Là. Je me dis, quand la pause arrive, je vais y aller le voir. Puis je me dis, ils me mettront dehors s'ils veulent, mais moi, je vais y aller. Fait que la pause arrive, je disparais. Il y a une petite fenêtre comme ça, je regarde, il est là. Hey, là, c'est pas dur, hein? Signe de croix, je rentre. J'ouvre la porte, je rentre, puis c'est comme si, c'est à peu près à la même distance. Moi, je suis ici, puis c'est comme si lui était à l'arrière complètement. Puis, donc, entre nous, lui, il me fait face, et de dos, c'est tout l'orchestre symphonique qui joue avec lui qui est là. Moi, je passe par le côté comme ça, tranquillement. Je m'avance, puis je finis complètement à côté de lui, en avant, à peu près à cette distance-là. Puis, de temps en temps, il me regarde genre, qu'est-ce qu'il veut, lui? Et là, à un moment donné, il arrête, puis là, tout le long, il chante, puis là, moi, j'en crois pas mes yeux et mes oreilles. Et là, quand il arrête entre deux pièces, il me demande qui je suis. Je lui dis, je suis un jeune chanteur, je suis un ténor, je fais les rôles que vous faites, mais je commence, moi, là, tu sais, puis je peux pas croire qu'on est dans la même bâtisse, puis que vous êtes là, fait que j'ai essayé de venir vous rencontrer, puis je veux juste être là, je veux pas vous déranger. Et là, il me dit, prends-toi une chaise, assieds-toi là, puis il me reste quatre pièces à répéter. Puis regarde-moi, mais regarde juste ma bouche. Hey, je vous le dis, là, je pouvais pas le croire. Et j'ai donc, pendant quatre pièces, je l'ai regardé comment ça bougeait, puis comment ça marchait, puis la respiration. Là, tout le monde me cherchait à côté parce que je l'avais pas dit, parce que je voulais pas qu'ils viennent toute la gang, tu sais. J'ai dit, si il va toute la gang, ils vont nous sortir. Fait que, finalement, ben voilà, je l'ai rencontré, il a chanté. Je suis reparti à ma répétition. Je me rappelle pas beaucoup de la répétition après, par exemple. J'ai perdu des bouts.
Marc Hervieux, merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. C'était vraiment exceptionnel.
Un plaisir. Merci, merci.
Alors, ce don, alors, juste pour vous, ben on est hors d'onde maintenant. Ce dont on n'aura pas eu le temps de parler, c'est d'Émile Néligan et des 7 jours du Talion. Néligan, pour vous, ça a été un coup de cœur.
Mais adolescent, je tripais sur Néligan. Donc, quand on m'a demandé de chanter Néligan l'année passée, j'avais déjà tout lu ce qui existait sur Néligan. Fait que c'était vraiment un avantage. Mais si je peux vous donner mon conseil de gars qui a tout lu là sur Néligan, évidemment, il y a la poésie, mais dans les biographies, ça, c'est assez... c'est rare, ce genre de truc-là. C'est une biographie, mais en images. Donc, tout le temps en rapport avec toutes sortes de trucs qui arrivaient à Néligan et qui arrivaient au même moment. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Néligan, à partir du moment où il est interné en 1900, pour 42 ans, il n'a jamais recomposé de nouveaux poèmes. Il a toujours simplement réécrit, retranscrit plutôt, je devrais dire, les poèmes qu'il avait déjà écrits. Et ce qui est assez incroyable, et dans cet immense truc-là, on le voit encore plus, là, c'est que, surtout ici, le poème et texte d'asile, c'est que plus on avance dans les années, ils ont reproduit les pages de ces petits carnets, plus ils se trompent de mots et plus il y a des fautes d'orthographe. Alors que quand il est jeune et qu'il fait ses textes, c'est impeccable. Il n'y a aucune faute. Les mots, c'est tout le temps fidèle. Et plus il vieillit, plus il est interné, plus sa mémoire et sa condition physique fait que... Et ça, là, c'est touchant à lire, là, parce que tu fais juste prendre, admettons, le vaisseau d'or, parce qu'on c'est facile s'en rappeler, puis on le connaît. Puis là, tu le lis 2 ans plus tard, puis 5 ans plus tard, puis 8 ans plus tard, puis il change tranquillement. Mmh. Puis là, il va barrer des mots, puis il va réécrire un autre. Mais celui-là non plus, c'est pas le bon. C'est vraiment...
Moi, on m'a raconté une histoire terrible. C'était comme un numéro de cirque. On amenait les gens visiter Néligan, Saint-Jean-de-Dieu.
C'est ça.
Puis là, il leur écrivait un poème sur un bout de papier. Puis...
Il écrivait ses poèmes ou des poèmes d'autres poètes qu'il savait par cœur. Il écrivait ça.
C'est ça.
Puis il donnait ça aux gens. Puis c'était comme, c'est effectivement, comme un animal de cirque. C'est terrible. 42 ans interné, sa mère est venue le voir une fois, son père jamais. C'est incroyable, hein, de penser ça. De l'âge de 20 ans à 62 ans.
Et donc, il y a un opéra qui s'appelle Néligan, dans lequel vous avez joué le rôle.
Ouais.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est Michel Tremblay qui a fait le livret.
Et André Gagnon.
André Gagnon, la musique. On a le temps pour 3 questions. Si vous avez le goût, il y a des micros, vous vous nommez, puis vous posez une question. Sinon, on s'en va.
Bonjour, je suis André. Est-ce qu'il y a un opéra que vous aimeriez faire?
J'en ai un que j'ai jamais chanté encore, qui s'en vient, deux, et qui s'en viennent parce que je sais qu'à l'opéra, on prévoit ça longtemps d'avance. Donc, ces deux-là, je sais que je vais les faire dans la saison 2014-2015. Et c'est Turandot de Puccini et Othello de Verdi.
Merci.
Bienvenue.
Turandot, c'est à Montréal ou?
Ça,
pas le droit de le dire.
Je ne peux pas le dire, mais
c'est pas loin. Québec, puis c'est pas Québec. OK. Okay. Monsieur.
Oui, bonjour. Curiosité.
Mais c'est Monsieur Laberge.
Salut. Alors, vous me mettez sur une bonne piste. Je dois dire juste pour anecdote, je me souviens de Marc lorsqu'il travaillait dans...
C'était mon boss à la ville de Montréal.
Et Marc avait une caractéristique. On entendait, tu sais, à l'époque, c'était les ordinateurs.
Ouais.
Marc apportait des airs d'opéra. Et dans la salle des élections, ce qu'on entendait, c'était les grands arias et...
Ma musique dans mon bureau, puis là, la réceptionniste qui venait me dire, « J'aime ça, mais un peu moins fort, je comprends rien au téléphone.
» Alors, ma question, M. Hervieux, est-ce que je comprends que vous chantez dans plusieurs langues? Est-ce que vous lisez dans plusieurs langues?
Oui, principalement dans trois langues. Je lis en français, en anglais et en italien. C'est une très bonne question, puis ça va m'amener à parler de quelque chose que j'avais amené, puis dont on n'a pas eu le temps de parler. Ces trucs-là, ça s'appelle avant-scène opéra. Ça existe pour le théâtre aussi. Mais dans les versions opéra, l'avantage que ça a, c'est que vous avez le texte, le livret, en français, en anglais, en italien et en allemand. Puis il faut savoir que souvent, l'histoire va bouger un peu d'une langue à l'autre parce que ça se traduit pas nécessairement, toujours fidèlement. Il y a la traduction mot à mot aussi, puis il y a l'influence des pièces de théâtre ou des compositeurs ou des personnages. C'est vraiment complet. Pour comprendre un opéra, là, c'est une référence. Puis regardez, c'est tout petit, c'est super facile à lire. Et donc, c'est bien intéressant, mais c'est sûr, surtout français, anglais, italien. J'ai appris l'allemand, mais comme ma voix se prête moins à l'allemand chanté, malheureusement, je ne l'ai pas beaucoup pratiqué, puis ça va faire déjà 20 ans que j'ai fait le conservatoire, puis on le perd trop vite, je n'ai pas pratiqué, donc je suis capable de lire tranquillement, mais je pourrais, tu sais, ça me demanderait, mais l'italien vraiment, et aussi parce que ma conjointe parle 5 langues, donc... souvent, on va pour le plaisir. Parce qu'on peut pas parler en français ou en anglais quand on veut se dire quelque chose sur les enfants. Hein? Parce qu'ils comprennent les deux. Fait que là, on se parle en italien, puis on est correct. Tu sais.
Alors, les deux dernières questions, les deux dames qui sont là.
Je me permets de vous appeler Monsieur Marc.
Ah ben, c'est très gentil.
Vous êtes à nous. C'est vrai. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous avez chanté avec les petits chanteurs du Mont-Royal? Peut-être vous l'avez dit au début, mais moi, j'étais pas là. Et je voudrais vous entendre là-dessus. Et à savoir, est-ce que l'opéra Néligan reviendra bientôt? Merci.
Pour ce qui est de l'opéra Néligan, je le souhaite très fort. Moi, en tout cas, j'essaie de travailler pour que ça se fasse. J'ai bon espoir, je pense que oui. Parce que ça a été une production trop courte la dernière fois, l'année passée quand on l'a fait. Ça, en plus, c'était très significatif parce qu'on l'a fait sur la scène au Monument National. Et Néligan, en 1898, a récité lui-même 6 de ses poèmes un soir au Monument National parce que lui faisait partie de l'association de littérature à ce moment-là. Ils faisaient leur rendez-vous en face de l'Hôtel de Ville. Ils faisaient ça au Château Ramsay. Mais là, Néligan devenait tellement populaire qu'il devait se déplacer au Monument. Mais sauf qu'après ce soir-là où il a récité 6 poèmes, il y a eu une très mauvaise critique d'un journaliste américain qui était venu l'entendre. Et là il commence tout de suite après ça à vraiment pas être content. Et là, il va composer la romance du vin et puis tout ça. Puis il va un peu répondre, dans le fond, aux critiques. Donc, j'espère que ça va se faire, Néligan. L'autre question, oui, j'ai chanté avec les petits chanteurs quelques fois. En fait, à l'Oratoire Saint-Joseph, pendant 25 ans, c'était Paul Trépanier qui chantait le Minuit chrétien et la Deste Fidelis aux messes de minuit, aux messes de Noël, le soir, à 9h, 10h, 11h, minuit... Et quand lui a décidé de prendre sa retraite, on m'a demandé de le remplacer. Je l'ai fait pendant peut-être 3 ou 4 ans. Donc, j'allais à l'oratoire, je chantais en haut dans le jubé le menu chrétien seul, puis je descendais après en bas en avant pour faire la Deste Fidelis avec les petits chanteurs du Mont-Royal. Et j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, j'avais des enfants et puis je trouvais ça un peu bizarre de dire bon ben papa va s'en aller travailler la nuit de Noël. Fait que pendant qu'il était tout jeune, donc j'ai arrêté pour cette raison-là. Mais là maintenant que les enfants sont plus grands, je vais chanter le menu chrétien par plaisir à différents endroits. Là, ça fait 2 ans que j'arrive à la paroisse où j'habite, à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, puis que je le chante là, tout simplement, comme ça. Là, je me glisse dans le choral de la paroisse, puis je fais mon frais, puis je fais la note aiguë.
Madame Bourgeois, dernière question.
Moi, d'abord, j'ai beaucoup apprécié cette entrevue-là, et je trouve que votre grande générosité, on la sent quand vous nous livrez toutes les anecdotes sur votre vie. Vos lectures, vos choix de lecture. Mais on n'arrête pas de parler d'opéra depuis tantôt et j'aimerais beaucoup entendre votre version de l'air des bijoux de la Castafiore.
Qu'est-ce que vous me chantiez dans votre tête? Non, mais le problème, parce que moi, je suis toujours prête à chanter. Mais le problème que j'ai, c'est que la vraie version m'a contaminé. Parce que c'est vrai, parce qu'après ça, maintenant, je l'entends. Là, j'essaie de m'en rappeler, mais c'est difficile parce que je reviens toujours à « Mon Dieu, que de bijoux! Hein, » tu sais. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Ah, je ris. Mais ceci dit, j'ai joué l'opéra Faust quand même quelques fois, et des fois toujours avec vraiment des sopranos très belles. Puis je leur dirai pas, mais des fois, je fermais mes yeux, puis ils ressemblaient à Castafiore. Mais je leur dirai pas.
Merci beaucoup. Bon après-midi. Hey, merci. Super.